Aujourd'hui, le magazine Forbes a publié sa liste des valeurs de franchise de la LNH. Et comme je m'y connais pas beaucoup là-dedans, j'ai fait affaire avec un spécialiste. Je vous présente à l'instant Frank Pons, professeur de marketing à l'Université Laval. Bonsoir, Frank.
Bonsoir, Dan.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, t'aurais dû me le dire des années 1910-1912. On n'aurait pas acheté ensemble les Rangers de New York?
Ah, on aurait fait pas mal d'argent, hein. Mais tu peux voter bien moins l'Inkside, tu aurais fait de l'argent quand même, tu sais. T'as mais juste à acheter les. Même les Knights ont augmenté de 15% l'année dernière, donc tout va vite dans le hockey maintenant.
Oui, 500 millions, et là, ils valent 575 millions.
C'est ça.
Évidemment, à Québec, Frank, et je veux pas relancer le débat de on va-tu avoir les Nordiques un jour, mais à Québec, les gens aime pas beaucoup Gary Bettman. Mais toi, comme spécialiste du marketing, tu vas me dire qu'il n'y a pas un meilleur gestionnaire pour cette ligue-là.
T'as tout compris. Il livre la marchandise pour les gens pour qui il travaille, qui sont les propriétaires. Il fait une job assez, je dirais, remarquable dans leur sens à eux. La valeur de leur investissement n'arrête pas d'augmenter. Tu le vois, on le voit avec les chiffres de cette année. Et il y a encore pas mal de belles choses qui vont arriver dans les années à venir. On en parle un peu dans le classement Forbes, mais il faut pas oublier que même si il y a des soucis sur les droits télé en général dans le sport, les droits télé de la NHL aux États-Unis sont très très sous-estimés. On est à 200 millions à l'heure actuelle, c'est ridicule. Et donc, ils vont encore faire beaucoup d'argent quand le contrat va être négocié en 2021.
OK. 650 millions pour Seattle. Comment on fait pour arriver à ce chiffre-là?
Ben, regarde la valeur moyenne des équipes. Tu comprends que l'évolution, elle est assez facile à suivre depuis plusieurs années. En tout cas, on ne fixe pas un prix sur les équipes qui sont en difficulté dans la ligue, mais on va y aller pour une valeur à peu près moyenne. Et surtout, on regarde le marché potentiel également. Le prix d'entrée, il est assez fixe, mais le marché potentiel de ce qu'il peut amener, on peut amener certaines variations. Je pense qu'on aurait pu demander plus cher, peut-être même que 650 millions, mais Seattle va ramener beaucoup d'argent à la Ligue nationale dans les années à venir. Et donc, 650 millions est un prix juste quand on regarde les valeurs actuelles et l'évolution du prix des franchises.
OK. Évidemment, il y a des franchises qui valent moins cher que d'autres, mais ouais. il y a pratiquement plus de franchises, Frank, qui valent en bas de 300 millions c'est dans des marchés qui sont très difficiles. C'est donc dire que le nombre de spectateurs importe peu maintenant pour la valeur d'une franchise?
Ben, faut faire attention. C'est un ensemble de facteurs qui importent. Je te le dis, on peut pas complètement éradiquer l'importance des spectateurs. Bien au contraire, parce que la valeur du club, oui, va avoir une importance avec le nombre de spectateurs. Pas forcément seulement avec les billets vendus au public général, mais il faut qu'il y ait une masse intéressante dans l'entourage de l'équipe. Donc, ça peut être des billets qui ont vendu des billets de saison dans des industries, donc un endroit où il y a beaucoup d'industries. Ça peut être une forte population autour de l'aréna, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'aréna parce qu'il y a un potentiel télévisuel et donc publicitaire important. Donc, c'est un critère important, mais ce n'est pas le seul critère. C'est un ensemble de facteurs qui vont décider si une franchise a de la valeur ou pas. Et comme tu le dis très bien, à 300 millions comme prix moyen d'une franchise, pour des franchises que tout le monde, à Québec en particulier, appelle des franchises en grande difficulté. Effectivement, elles le sont à plusieurs niveaux, mais le calcul qui est fait, c'est est-ce que déplacer ces franchises-là va vraiment résoudre nos problèmes et va nous amener plus d'argent dans le long terme. Encore une fois, je te ramène à ce que j'ai dit au début sur la négociation des droits télé qui vont arriver. La couverture géographique aux États-Unis va être très importante pour ces nouveaux droits télé-là. Et donc, avoir des équipes qui sont pour l'instant déficitaires avec des spectateurs en baisse, mais qui ont une capacité télévisuelle intéressante, va rendre dans l'équation et dans la décision.
Ça, c'est important, le réseau de télé aux États-Unis pour Gary Bettman?
Ben c'est clair, regarde. À 200 millions, je sais pas si c'est, faut mettre les choses en perspective, là. Tu suis beaucoup la NFL, comme moi, on adore ça. La NFL, les droits télé, c'est combien par année? Entre 5 et, dépendamment de comment on le calcule, on va dire aux alentours de 6 milliards par année en droits télé. OK? Tu descends, puis tu arrives à la NBA qui a 2,6 milliards. Tu descends encore, la MLB, on a peut-être 1,5, 2 milliards. La NHL aux États-Unis, là, qui est en train d'avoir 32 équipes, je te rappelle qu'ils couvrent 32 villes maintenant, qui va le faire en 2021-2022, c'est 200 millions. La MLS est à 100 millions US. Donc tu comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. Même si on parle des difficultés, je suis le premier à le dire que l'avènement des médias électroniques va changer la manière de consommer ces droits télé-là, ces droits-là sont sous-estimés. Et donc une couverture globale aux États-Unis, c'est très important pour les marchés télévisuels. Et donc pour négocier ces droits, le minimum auquel on peut s'attendre, c'est des droits qui vont doubler quand on va les renouveler, donc passer de 200 à 400 millions sans aucun doute, au minimum. On paye plus au Canada pour les droits de la NHL que partout aux États-Unis au total. Deux fois plus, d'ailleurs.
Fort intéressant. Dis-moi, est-ce que comme gars de marketing, comme spécialiste de marketing, est-ce que ça te fait peur de voir la Ligue nationale associée avec le groupe MGM, des gamblers, des méchants?
Regarde, je vais être aussi très réaliste. c'est pas des méchants, très honnêtement. Non, ça a freiné beaucoup pour moi depuis très longtemps. Ah, je le sais, je te connais. On sait qu'on s'est vu une fois à Vegas, d'ailleurs. Oui. Mais non, très honnêtement, au contraire, je pense que ça peut bonifier. Puis, tu sais, il y a plusieurs manières de le regarder. La réalité, c'est que combien de personnes ont des équipes fantasy, tu sais, genre leur pool de hockey, ont leur pool de football. C'est une réalité. Que tu mettes de l'argent ou pas, de manière détournée, c'est un peu ce qu'on fait. Et maintenant que ça soit du gambling qui va devenir légal, d'ailleurs, on a beaucoup de transformations, en tout cas, à ce niveau-là. Mais l'intérêt est là. Les gens sont plus impliqués. Quand il y a on associe une valeur de jeu, que ce soit une valeur monétaire ou pas, le football est très suivi à cause des fantasy, là. Ça va être la même chose pour les autres sports. Et encore une fois, je pense que ça va permettre de développer encore plus l'engagement. Maintenant, il y a des considérations éthiques ou autres à avoir, mais moi, ça me fait pas peur. Il faut qu'il y ait des garde-fous. C'est ça le plus important, mais il faut aussi vivre avec son temps, hein.
Dans ta lecture de la valeur des franchises aujourd'hui, est-ce que c'est encore vrai que le hockey est très profitable au Canada?
Ben, il y a des équipes qui vont dire un peu moins, mais il l'est. Ce qui est intéressant, c'est de regarder pas seulement les revenus, mais les operating incomes, donc la différence entre tes revenus et ce que tu dépenses. Oui. Et tu regardes même les sénateurs qui sont en grande difficulté, sont quand même positifs. Donc le hockey a de la valeur pour les équipes canadiennes. Bon, Winnipeg un peu plus en difficulté, mais ils ont quand même une augmentation constante. Toutes les équipes gagnent de la valeur. C'est ça qui est important à regarder. C'est des marchés plus petits. Tu sais, Winnipeg, c'est un bon exemple par rapport à Québec. C'est viable, c'est intéressant. Ils sont là, mais ils sont 27e, et c'est sûr que si tu les compares au marché potentiel de Houston, c'est pas le cas. Mais eux ont une équipe, nous on en a pas, et donc on revient à la même chose. C'est viable, tu vas faire un petit peu d'argent, tu vas faire beaucoup d'argent à la revente, si un jour tu revends l'équipe, mais c'est viable au Canada, mais c'est sans doute pas les meilleurs endroits, à l'exception du Canadien de Montréal, mais tu sais, il y a un côté historique, il y a une valeur de la marque. Il y a aussi Evenco et l'ensemble des événements qui se passent dans l'aréna et qui donnent beaucoup de valeur à cette franchise-là, quoi.
Un gros merci, Frank, de nous avoir parlé. Fort intéressant.
C'était un plaisir, Dan. Bonne soirée.
Merci à toi. Frank Pounds est professeur de marketing à l'Université Laval. Il réagissait à la liste publiée aujourd'hui par le magazine Forbes sur la valeur des franchises dans la LNH. Le collègue Will dit qu'il a un extrait de ma dernière présence à l'antichambre parce que je vais être là ce soir. On va écouter ça.
Dan, d'abord, j'aimerais m'excuser auprès de toi, puisque je t'ai appelé en onde cette semaine, Dan Pou, en prétendant que tu t'appelais Denis. L'erreur est mienne, mais elle vient de Charles Perrault, qui vient de Québec, et qui m'a dit « Non, son nom, c'est Denis Poulin », alors que ton nom, c'est vraiment Danny, D-A-N-Y,
exact.
D'où ton surnom, Dan Pou.
Vraiment pas grave.
Non, je voulais juste le dire, puis à mon patron,
très content d'être
qui
là.
Me regarde. Doit écouter, d'ailleurs.
Qui doit regarder.
Mercredi, là,
c'est ta faute.
Il arrêtait pas de m'obstiner. J'étais là, non, c'est Dan Pou. Oui.
Ça, c'est il y a 2 ans, quand j'étais allé à l'antichambre. Et évidemment, c'était Stéphane Langlois à ce moment-là qui était animateur. Ce soir, ce sera évidemment Luc Bellemare.